Bonjour à tous et bienvenue sur istasia.fr pour notre troisième et dernier, et oui, podcast en direct de Cannes. Bonjour Pauline.
Bonjour Victor.
Bonjour Julien.
Salut Victor.
Ou plutôt bonsoir d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il commence à être un peu tard et nous sommes déjà un peu fatigués. Donc excusez-moi en tout cas pour les lapsus qui sont déjà à prévoir, je pense, et les erreurs dans les noms des films, des réalisateurs et autres. Voilà. Donc ça, c'est fini. Alors, la compétition officielle se termine demain, ce qui fait qu'on n'a pas encore tout vu, mais on commence à avoir une bonne idée générale quand même des films qui sont présentés. Pauline, tu nous avais parlé de Still the Water de Kawase Naomi hier ou avant-hier lors du précédent podcast. Nous n'avions pu en débattre car nous ne l'avions pas vu, je ne l'ai toujours pas vu, mais Julien l'a vu. Peut-être qu'on va un petit peu revenir sur le film qui est le seul japonais et asiatique de la compétition officielle, donc qui est quand même extrêmement important. Julien, est-ce que tu peux nous dire, nous rappeler de quoi il retourne et nous dire ce que tu en as pensé, puisque on sait déjà ce qu'on a pensé, Pauline.
Alors, rappel du petit synopsis, on est sur une île, on est au Japon, mais dans une petite île annexe, qui me semble dans la péninsule d'Izu, où en fait, on retrouve un cadavre le long d'une plage.
Dans une vache. Non, je confonds avec le petit caca, pardon.
On l'a refait. Oui, tu dois retrouver une cadavre, ouais. On n'est pas petit caca, Victor.
D'accord, on parlera du Bruno Dumont.
Pas mal comme la Suisse, celui-là. Il était volontaire
Un petit peu.
Un petit peu, d'accord. Ok, bah, donc on retrouve un cadavre, mais lui, il n'est pas dans le cul d'une vache. Il est retrouvé sur la plage. Et en partant de ça, on se retrouve en fait au cœur de deux familles. L'une où on a une petite fille qui est assez mature et qui est très amie avec un autre garçon de l'autre famille, dont la mère est divorcée. Donc ça, c'est un synopsis très vague.
D'accord, là tu m'as perdu. Là.
Voilà, ok, d'accord.
Je suis dans le flou déjà. Mais
voilà, mais justement, c'est le thème, c'est un peu le flou, c'est un petit peu... Le thème, en fait, pour moi, la principale thématique, c'est l'impermanence. L'impermanence, c'est au niveau déjà un énorme rapport avec la nature, le ciel, la terre, la mer... C'est le temps qui passe, c'est l'acceptation de ce temps. C'est aussi traduit par la forme, où on voit que la caméra bouge au gré du vent, donc elle est toujours en mouvement. Les lieux sont en général ouverts et sont toujours en lien avec la nature, donc que ce soit les quatre polarités, vent, terre, mer et ciel. C'est un film qui se vit, c'est pas quelque chose qui forcément s'analyse, en tout cas pas sur le coup, c'est quelque chose qui se vit, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans les films de Kawase. Ici, la principale différence, c'est que, ça a peut-être une connotation péjorative, mais qu'on est un peu trop guidé. Alors je sais pas si c'est la coproduction qui est française, mais toutes les situations sont justifiées, il y a toujours une explication après chaque séquence en général, et même à la fin, il y a même un petit bilan. Alors ce qu'on retrouvait absolument pas dans les précédents films de la cinéaste, où en fait on pouvait réinterpréter comme on voulait, et ça donnait un caractère unique au long métrage.
Mais quand tu dis qu'on est guidé, c'est par des dialogues, c'est discursif
ou... Voilà, il y a des dialogues qui sont très bien écrits, et d'ailleurs je l'ai su après la projection, qui ne sont pas retranscrits dans le dialecte de l'île où est tourné le film. Il y a aussi un décalage qu'on peut voir aussi, il y a des dialogues qui sont des parties qui sont extrêmement écrites et bien rédigées, et d'autres qui sont complètement improvisées. Donc il y a ce décalage qui est un petit peu bizarre, et on a l'impression que la cinéaste nous guide un petit peu sur son chemin, et qu'il n'y a pas de libération du spectateur, dans le sens où justement on a ce parcours un petit peu justifié, vraiment à toutes les situations, il y a toujours une explication. Et ce que je trouve un petit peu dommage, et c'est pour ça que quand j'ai vécu le film, j'ai adoré, en fait, parce que j'adore le thème de l'impermanence et vraiment cette parfaite imperfection, on va dire. Mais après coup, quand j'ai discuté avec les gens autour de moi, particulièrement les Japonais, qui eux ont par contre un avis très péjoratif sur le film, justement parce que le fait qu'il n'y a pas une retranscription réelle du lieu géographique, et aussi au niveau des dialogues. Mais globalement, il n'y aurait pas d'avis à donner sur ce film. En fait, il faudrait vous donner au spectateur le choix d'aller voir le film, si en tout cas il ne connaît pas le cinéaste, et de voir qu'est-ce que ça leur, quel est leur ressenti, comme quand on est en face d'une toile. La même chose, vivez-le et après analysez.
Pauline, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose.
Non. C'était très bien, non, mais j'ai appris des choses dans l'explication de Julien et je suis assez d'accord, c'est un film qui se ressent beaucoup. Après, c'est vrai que le guide des voix off, elles sont très très nombreuses dans le film, je trouve qu'elles correspondent bien à l'esprit du film, c'est-à-dire qu'il y a quand même une sorte de philosophie orale transmise notamment par un personnage assez âgé qui est un peu un petit guide en effet du bien vivre et du bien mourir aussi, parce que moi, je trouve que la grande thématique du film, c'est aussi l'acceptation de la mort, hein. Enfin, en lien avec ce que tu disais, la nature. Mais enfin, voilà, c'est aussi un guide pour surpasser la douleur. Et je trouve que la voix off s'y emploie quand même des fois assez bien, surtout qu'il y en a plusieurs personnages différents. Mais en effet, c'est un film très très sensoriel et visuellement très très beau quand même. Le film, la nature. Enfin, moi qui ne suis pas familière de la cinéaste, c'était appréciable de découvrir.
Et ça fera un très beau prix, je pense. Après, lequel, la Palme d'Or, ce serait pas forcément très étonnant, vu la présidente du jury et que le jury lui-même est composé de, je crois, 6 femmes, il me semble, hein.
Non,
Non, pas
il y en a
tant.
moins.
Non, moins?
Ouais.
Bon, alors je me suis
Une
trompé,
parité
mea culpa.
parfaite.
Mais il y a une bonne
Oui,
parité,
une
et ça
parité
pourrait
parfaite.
plaire au jury féminin et surtout à la présidente. Voilà, moi je mettrais bien une petite pièce quand même sur la Palme d'Or.
Très bien. Bah, je pensais pas faire une transition avec Adieu au langage de Godard, mais finalement, cette thématique de l'acceptation de la mort, cette présence des voix off, par contre, ces voix off qui ont tendance plutôt à nous perdre qu'à nous guider, on les retrouve aussi dans Adieu au langage, que l'on a vu aujourd'hui, Julien et moi, et qui est également en salle d'ailleurs, donc vous pouvez le voir. Julien, est-ce que tu peux nous dire de quoi ça parle?
Alors, c'est la question un peu compliquée parce que, en fait, il n'y a pas de. Pas vrai, enfin, au début de la projection, je m'attendais à un film complètement incompréhensible. J'avais lu une petite critique preview des Un Rock et je me dis, mais qu'est-ce que je vais la regarder? Surtout que, honte à moi, mais je n'ai vu encore aucun Godard. Et donc, et justement, le film, à la fin de la projection, je me dis, mais il faut que je me refasse tous les Godard, quoi, pour comprendre comment il a pu arriver à ce stade-là, à ce film. Qui suit quand même un certain fil conducteur, on va dire, entre guillemets, qui nous raconte surtout. Alors, il y a plusieurs parties. Ça parle surtout de la non-pensée et des codes cinématographiques auxquels il ne faudrait pas se fier. En fait, il faudrait se. Victor aide, mais. Enfin, il y a des codes cinématographiques. Qui se juxtapose, qui se surexpose. La 3D est utilisée d'une façon complètement géniale, avec des séquences qu'on n'a absolument jamais vues, et on se demande pourquoi les gens n'y ont pas pensé. Et ça reste sur la rétine, ça vous retourne le cerveau, on pourrait même dire. Après, le film en lui-même est un enchaînement de séquences qu'on pourrait croire incompréhensible, mais qu'en fait ne l'est qu'en surface, entre guillemets, parce qu'il y a quand même un fond, quand même une réflexion intéressante sur la non-pensée, sur l'acceptation de justement de cette conscience qu'il faudrait justement transformer en inconscience, entre guillemets, qu'il métaphore avec le personnage de son chien, auquel lui se occupe une bonne partie du métrage, où justement une citation du film qui m'a marqué, c'est que le chien aime autrui plus qu'il ne s'aime soi-même, chose qui est complètement à l'opposé de l'être humain par définition, avec l'ego. Et donc il se met dans la peau du chien, voilà, il visite un petit peu, la caméra se met à sa hauteur, entre guillemets.
Il y a un morceau de Godard
Voilà, un
qui
morceau de
arrive.
Godard, voilà, c'est ça, exactement. Et
Le cynisme, pardon.
on en ressort perplexe, mais c'était pour moi une agréable surprise. C'est un peu son film testament, on va dire, parce que plusieurs fois il cite, comme en parlant off, Victor, c'est qu'il faut dire non et mourir. En tout cas, j'espère que Godard a encore de belles années devant lui, parce que ce qu'il fait, c'est vraiment remarquable. Bon, ça donnera un beau prix de la mise en scène, en tout cas. Voilà.
Bah exactement, bah écoute, t'as à peu près tout dit. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez crépusculaire dans ce film, et on a vraiment l'impression qu'il y a un geste presque testamentaire à travers cet adieu au langage. D'ailleurs, il revient beaucoup sur les termes d'adieu, du moins, qui, comme d'habitude, coupons deux avec donc une référence aux divinités. Après, c'est vrai qu'on peut peut-être se rassurer en disant que ça fait 15 ans que Godard fait des films crépusculaires et testamentaires. L'histoire du cinéma, c'était déjà, il a commencé à la fin des années 80, et donc plus que 15 ans. Et finalement, il dit qu'il est un des derniers survivants du cinéma tel qu'il peut l'être, et il fait un autoportrait très crépusculaire, très testamentaire. Donc on a l'impression qu'il est en train de mourir et de léguer donc des images en héritage depuis plusieurs années. Donc on peut espérer que malgré ce dire non et puis mourir qui revient dans le film et qui a l'air de le clôturer, Godard fera encore quelques films, d'autant qu'il reste effectivement extrêmement inventif formellement. Enfin, il reprend à peu près ses procédés de surimpression, de collage d'images qu'il pouvait utiliser dans les histoires du cinéma et dans tous ses films de la dernière période. Là, en utilisant la 3D et vraiment en prenant en charge à peu près, alors soit tout ce que l'on peut faire, également tout ce qu'il ne faut pas faire, parce que parfois il fait des choses qui donnent un petit peu mal à la tête, notamment en dissociant les deux images que peut filmer la caméra, donc ce qui fait qu'on ne voit pas la même chose de l'œil droit et de l'œil gauche, en donnant une image qui est incompréhensible et pas vraiment traitable par le cerveau quand on ne cligne pas d'un œil pour la regarder, mais qui reste assez fascinant et complètement jeune en fait dans le propos et dans le fait de s'amuser justement avec les codes du cinéma. Et quelque chose d'assez paradoxal dans le film, qui est que effectivement c'est un adieu, c'est un testament, et c'est un côté extrêmement ludique. Godard s'amuse aussi, il fait des aphorismes qui sont extrêmement, extrêmement drôles par moments. Il a toujours ce jeu un peu d'association libre d'idées qui fait qu'on peut aussi s'amuser en regardant le film. Qui fait que ce film, malgré tout ce qu'on peut lire, a une forme, et je trouve comme beaucoup de Godard de la dernière période, une forme d'immédiateté et d'accessibilité à partir du moment où on se prête au jeu. C'est-à-dire vraiment, enfin, c'est un jeu, on doit dénicher des signes, des codes, on peut les interpréter à peu près comme on veut, mais il faut se prêter au jeu, je pense, pour accepter le film, et au final ça reste très amusant. Donc ça reste du grand cinéma pour moi, et du grand Godard. Donc on verra ce qu'il peut avoir comme prix. Après, c'est vrai que c'est une question qui est aussi très, très secondaire, j'ai l'impression, à la fois pour lui, à la fois pour son cinéma. De toute façon, c'est trop tard, et bon, enfin, ça n'a plus aucune importance pour ça, si ce n'est... Donc, enfin, au contraire, juste, je vous conseille très vivement d'aller le voir au cinéma et d'aller le voir en 3D. Et je suis assez curieux de voir ce qu'il va faire avec une version 2D du film, éventuellement.
En tout cas, ça donne très envie. On dirait que vous parlez d'un jeune cinéaste expérimental de 25 ans, en fait. Plus que d'un vieux cinéaste, quoi.
Bah, c'est un peu ça. Et justement, la transition est toute trouvée. Parlons maintenant d'un jeune cinéaste d'à peu près 25 ans. Je sais pas exactement quel âge a David Dolan. Mais donc, il a 25, exactement.
Ouais.
C'est parfait. Qui venait donc présenter Mommy. Je crois que c'est son premier film en compétition officielle. Il avait fait un certain regard.
Enfin, il avait fait un certain regard.
Les,
ouais. les amours imaginaires, je crois que c'était un certain regard.
Je t'en prie, Pauline. Vas-y.
Oui, bah, il a été présenté hier soir à la presse. Je pense qu'il est, complètement ravi d'être en compétition, et ça se voit. C'est un film assez long, peut-être plus encore que ses autres films, avec un sujet qui ressemble de loin à son premier film, donc J'ai tué ma mère. C'est une relation donc mère-fils avec un enfant très très difficile. La première heure du film, très très drôle, donc il y a un mélange assez impressionnant de vitalité comique comme ça, avec un personnage qui quand même est très très chargé, le personnage de l'adolescent. La première heure est vraiment magistrale et la salle était morte de rire, ce qui est assez... Enfin, depuis le début de la compétition, c'est notable quand même. Après, c'est le langage de Xavier Dolan. Hein. Il faut apprécier, aimer ce qu'il fait visuellement, parce qu'il le fait là encore de la même manière. Donc avec ce travail sur les couleurs, une direction artistique très très travaillée, un jeu des acteurs des fois un peu hystérique, mais si on aime, c'est quand même réjouissant. Moi j'ai trouvé, moi qui ne suis pas une amoureuse de son cinéma, je trouve que le film, on va parler de maturité encore, parce que ça lui ferait limite trop plaisir, mais c'est quand même un film qui commence à avoir des... Il y a des enjeux un peu moins nombrilistes, c'est un peu plus tourné vers... vers le sujet qui est quand même bon bah, je veux pas parce que voilà il faudra aller le voir je vais pas dévoiler mais
en plus on le voit demain
oui bien sûr non mais
ne dévoile
c'est...
pas
non voilà je pense que c'est que c'est une réussite vraiment très objectivement comme ça il y a des grandes scènes qui me tournent encore dans la tête et notamment des scènes musicales comme il le fait très bien mais là il le fait encore mieux parce qu'il y a un peu plus de sentiments réels au premier degré dans ces scènes musicales qu'il n'y avait pas avant, qui étaient plus référencées, comme ça, un peu fun, mais là, voilà.
Bon, on verra s'il arrive à me faire aimer Céline Dion dans un film.
Exactement.
J'en doute, hein. Mais on ne sait,
sait
jamais.
C'est une des plus grandes scènes du film, donc j'espère.
Ok, je te dirai demain, et aux auditeurs, peut-être plus tard. Je ne sais pas si on a oublié un film de la compétition officielle dont vous voulez parler. Peut-être rapidement sur le film des Dardenne qui semble, au vu des échos, faire l'unanimité. C'est vrai qu'on l'a vu ensemble, Pauline, et on était un peu plus sceptiques face à cette proposition cette année-là des frères Dardenne.
Oui, oui. Bah, en fait, c'est un peu c'est étrange parce que les échos parlent notamment d'un prix d'interprétation pour Marion Cotillard. Ce qui, à la rigueur, serait finalement... le prix le plus justifié. Cela dit, moi je trouve que c'est un film quand même très fabriqué et hélas la présence d'une star quand même hollywoodienne et française et hollywoodienne pardon joue beaucoup là-dedans. Je sais pas, c'est un scénario qui à la fois est très efficace. Donc c'est là une femme qui veut récupérer son emploi et qui le temps d'un week-end va passer chez tous ses collègues de travail pour les supplier de la même manière avec quasiment la même phrase. D'accepter de refuser une prime pour qu'elle garde son emploi. Ça, le scénario est à la fois très simple et très beau, très courageux finalement, mais c'est très cousu. Le scénario est surécrit, les dialogues sont très explicatifs parfois, il y a des scènes qui sonnent très très fausses. Donc voilà, moi je suis pas... Non.
C'est vrai qu'on voit un peu venir le prix d'interprétation pour Marion Cotillard, j'espère que ça ne sera pas le cas, parce que je la trouve pas mauvaise dans le film, mais ça voudrait dire qu'on privilégie de plus en plus à Cannes en fait, la performance d'acteur, la transformation, ce qu'il peut y avoir aux Oscars. Le pire dans ce cas-là serait Steve Carell pour Foxcatcher, qui est un peu l'équivalent masculin du film. Bon, la transformation est complètement différente. Il va un peu dans l'autre sens, mais il y a ce côté performance en fait qui marque plus que finalement le personnage hein, et le jeu d'acteur en lui-même. Hein.
Enfin, cela dit, le personnage dans le film des frères Dardenne est quand même passionnant. Au-delà de l'actrice lui-même, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui m'est venu plus tard, c'est-à-dire que c'est quand même une femme qui sort de dépression, et donc il y a quand même quelque chose sur son corps qui est quand même fatigué et qui se prend encore ce choc émotionnel. Ça, clairement, il le filme magnifiquement bien, et il l'invente par des petits détails de mise en scène et de jeu qui sont, je trouve, vraiment bien, et donc Cotillard le fait très bien. Après, son accent léger belge, je le trouve, il s'entend, il s'entend, quoi.
Il y a des moments où elle n'arrive pas à parler, elle fait une tentative de suicide. Je trouve que c'est pas des petits détails, hein. C'est quand même. Ils enfoncent le truc. Bon, j'ai une impression vraiment de. J'ai l'impression qu'ils arrivent avec un sujet qui est assez complexe et qui pourrait être traité avec finesse et avec des très très gros sabots dans tous les plans, dans tout le traitement.
J'avais pas prévu de me faire défenseur, de défendre le film, mais je dois quand même reconnaître qu'il y a quelque chose. C'est-à-dire, le film m'a déplu, moi, mais je l'ai trouvé profondément émouvant, en fait. Il y a des moments, quand même, qui m'ont bouleversée, notamment une scène où elle va voir un collègue sur un terrain de foot. Et là, il y a quelque chose au niveau du jeu des deux, enfin un retournement de situation qui est très violent et rapide et qui, moi, m'a énormément émue, malgré le fait que je trouve le film... Enfin, que je suis à distance quand même du film parce que je le trouve objet, un peu étire-larme et social exagérément bon, quoi. Voilà.
Je précise juste que j'aime beaucoup les Dardennes, par ailleurs. D'accord. C'est pas... enfin, voilà, là, c'est... Soit je suis pas rentré dedans, mais effectivement, j'ai trouvé... téléphoner dans ses dans sa progression et très très grossier dans le trait qu'ils font. Donc s'il n'y a pas ni Marion Cotillard ni Steve Carell pour le trait d'interprétation, Pauline, qu'est-ce que tu verrais demain samedi, enfin lors du palmarès, hein, finalement on est là, on, pour être précis, on est à 48 heures du palmarès.
Alors,
donc je... ton palmarès idéal.
À moi, ouais. À moi. Alors, sachant que je, pour rester tout à fait honnête, j'ai quand même pas vu. Voilà, j'ai vu la moitié, on va dire, de la compétition officielle, ce qui est peut-être trop peu. Mais dans parmi ce que j'ai vu, moi, le film que je trouve le meilleur de la compétition de ce que j'ai vu, c'est Winter Sleep de Nuri Bilge-Ceylan. Donc. À qui je verrais bien une palme d'or, parce qu'il a déjà eu et le Grand Prix et un prix de mise en scène. Je pense pas que la mise en scène de ce film-là n'ait ce prix-là. Avec donc celui-là en palme d'or, et je pense, même si... je verrais le Naomi Kawase en Grand Prix, et ou un prix de mise en scène donc Xavier Dolan à Mummy, ou un prix d'interprétation collectif pour ses acteurs.
C'est vrai que ça se fait beaucoup aussi maintenant, les prix d'interprétation collectifs.
Histoire qu'il est, voilà. C'est ce qui me semble le plus, moi, qui me plairait peut-être le plus, avec également, histoire que le Mike Lee, parce que voilà, je le trouve quand même assez merveilleux, le Mike Lee, le prix d'interprétation masculin à Timothy Spall, l'acteur principal de Mr. Turner.
Voilà. Et tu paries sur quoi pour la Palme d'Or?
Et alors, je parie quand même, malgré tout, sur Winter Sleep.
Ok. Julien ?
Ouais. Alors, moi, j'en ai vu encore moins que Pauline, donc sur ce que j'ai vu, il n'y en a pas des masses. Alors, prix de la mise en scène, bah, pas photo, c'est adieu au langage. Pour le Grand Prix, moi, je verrais bien Kawase. Pour le prix d'interprétation féminine, j'ai pas vu le film, mais ça sent gros comme une maison, deux jours et une nuit, avec Mathieu Cotillard, et voilà, j'ai même pas besoin de voir le film. Sinon pour la Palme d'Or, je l'ai pas vu, mais je le sens bien Winter Sleep, je sais pas pourquoi. Et pour les prix d'interprétation du scénario, je verrais bien Map to the Stars de David Cronenberg. Et sinon pour la mise en scène, par contre, je ne sais pas. Ah bah si, mise en scène, j'ai dit, c'est
Adieu Langage. Adieu Langage.
Voilà, bah écoute, voilà. Ouais, ce que je dirais. Mais Mommy, j'aimerais bien qu'il gagne un prix. Je sais pas lequel, mais je pense qu'il aura rien.
Moi, je vois bien une palme d'or pour Adieu au langage. Un prix du scénario pour Adieu au langage. Un prix d'interprétation pour le chien de Adieu au langage, qui est vraiment excellent. Donc, voilà. Nous allons passer. Oui,
sachant juste que demain il reste quand même le film l'autre film français, pardon, le troisième, non,
ouais.
Le troisième, pardon, film français en compète, Olivia Assayas, donc Sils Maria, où il y a aussi trois actrices dedans, dont Juliette Binoche et Kristen Stewart. Donc voilà, je dis juste.
Et il y a
que
aussi Léviathan.
Il y a aussi Léviathan qui
être un candidat sérieux à la fois pour la mise en scène. Et pour la Palme d'Or éventuellement.
Voilà, donc, ces films-là qu'on n'a pas vu encore.
Et là, maintenant vous savez quel est le palmarès, donc vous comprenez pourquoi on a dit n'importe quoi maintenant, parce qu'on n'avait pas tout vu et qu'il reste encore des films. Voilà. Par contre, à un certain regard, on n'a pas tout vu non plus, on ne va pas essayer de faire un palmarès à un certain regard, mais nous avons vu quelques films, surtout toi, Pauline d'ailleurs. Alors, tout d'abord, parmi les films que tu as vus, il y a le film indien Titli de Kani Bell.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en parler? Donc, c'est un premier film,
oui,
il me semble.
C'est un premier film qui est un drame social également, je dirais, comme il y en a eu beaucoup d'ailleurs, qui se passe dans la banlieue de New Delhi. j'espère que je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'est un film qui m'a pas... C'est un premier film, mais... qui m'a vraiment pas laissé un souvenir intarissable. C'est l'histoire d'une fratrie de petits magouilleurs. Et notamment, ils sont trois frères. Et il y a le petit dernier qui aimerait bien se sortir de cette emprise familiale très très forte. Il n'y arrive pas, bien évidemment. Donc en fait, c'est un ballet de personnages à la fois ultra antipathiques et de ma... Enfin voilà, je sais pas, le film avance pas beaucoup, il y a pas grand chose d'original, c'est... Voilà.
Donc oui.
J'ai pas du tout à... Voilà, non, j'ai pas grand chose à dire pour sauver le film, et même... Voilà. Disons que c'est un film qui a été sélectionné... pour des raisons, enfin voilà, de diversité dans la sélection.
Bah, c'est vrai que c'est le seul film indien et l'un des particulièrement tous les ans sous-représentés à Cannes. D'ailleurs, il y a très peu de films indiens, il y a très peu de films chinois aussi pour le coup. Enfin, bon, il y a des énormes cinématographies comme ça qui sont, et notamment quand on s'occupe du cinéma asiatique, qui sont complètement mises de côté. À propos de films chinois, il y avait tout de même aussi Fantasia de Wong Chao, que tu as vu, Pauline.
Oui, que j'ai vu. Là, c'est un film qui est un peu plus intéressant au niveau de la mise en scène, qui évoque l'histoire d'une famille. Donc, tous les membres d'une famille, ils sont quatre, ont des problèmes chacun de leur côté, donc c'est un récit vraiment croisé. Et en fait, c'est un film qui évoque la Chine contemporaine et la difficulté d'y vivre, d'y travailler. Le père travaille à l'usine, de s'y soigner, parce que le père donc, est malade, a une leucémie, on le sait dès le début du film. La difficulté pour une jeune fille de gagner de l'argent sans devenir prostituée. Donc en fait, chaque personnage a un enjeu représentatif sur le dos au niveau scénaristique. Et bon, c'est assez aussi, c'est un peu démonstratif. Voilà, bon, c'est pas un film que j'ai trouvé non plus à la hauteur de certains drames sociaux chinois, notamment, que j'ai trouvé un peu didactique également dans ces enjeux.
Voilà. Oui, j'en profite pour ajouter un film que j'avais complètement oublié déjà d'avoir vu, qui est Coming Home de Zhong Yimou, qui signe le retour de Zhong Yimou dans le cinéma officiel, en tout cas dans le circuit festivalier, après. Donc un passage post-Hiro vers le Wuxia soporifique, hein, et quelques drames sociaux qui étaient trop mauvais pour arriver dans les festivals français et en France. Celui-ci, donc Coming Home, a l'avantage d'avoir Gong Li comme actrice principale, et qui elle joue une femme en fait qui attend son mari après la révolution culturelle. Qui est donc libérée en 78, si je ne dis pas de bêtises, qui revient donc d'emprisonnement et d'un exil de 10 ans. Sauf qu'elle a eu une série de drames pendant cette période qui sont très lourdement expliqués pendant la première partie du film, qui fait qu'elle elle a une perte de mémoire et qu'elle ne reconnaît pas en fait l'homme qu'elle est en train d'attendre. Donc on est dans le... Voilà, dans le grand mélo, dans la fresque mélodramatique, avec donc le mari qui, à distance, sans pouvoir être reconnu de la personne qu'il aime, qui va essayer de prendre soin donc, de cette femme. C'est assez émouvant quand même de voir Zhong Yimou qui filme Gong Li, qui filme l'âge en fait, de l'actrice et le temps qui a passé depuis... depuis qu'ils ne sont plus ensemble et depuis leur dernier film. C'est malheureusement à peu près tout ce qu'il y a d'intéressant et à sauver dans le film, qui est extrêmement académique, assez plombant dans ses effets mélodramatiques. Donc voilà, il y a une musique assourdissante pendant tout le film et qui est d'un ennui certain. Donc,
et est-ce qu'il fait plus de 2 heures comme
et
tous
il
les films
fait, je, il m'a paru durer un peu plus de 2 heures. Je crois qu'il dure un peu moins de 2 heures. Voilà, pour l'instant, je ne sais pas s'il y a une distribution française qui est prévue. Ça m'étonnerait tout de même, mais bon, on verra. Je ne préfère pas trop m'avancer là-dessus. Donc, et ce film était présenté hors compétition à Cannes. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que le film va sortir, parce que souvent les films, autant les films de la sélection officielle sortent systématiquement, c'est un peu moins sûr pour un certain regard, c'est beaucoup moins sûr pour les films qui sont en compétition. Mais et là aussi ça fait un peu voilà, il fallait un film chinois dans la sélection, et bon, finalement ça fait un beau casting tout de même pour faire la montée des marches, mais le film était de toute façon certainement pas assez bon pour être en compétition, donc voilà, il s'est retrouvé en compète. On va terminer avec un certain regard, peut-être avec un mot sur Rora, que vous avez vu tous deux, et que vous n'avez pas, ou différemment aimé, on va dire. Pauline, je crois que tu as bien aimé, est-ce que tu peux nous dire très rapidement ce que c'est?
Oui, très rapidement, c'est un film, déjà c'est une coproduction assez énorme, de Lisandro Alonso, et ça se retrouve dans le film lui-même, parce que donc c'est un film polyglotte, donc les personnages, c'est un personnage de colon danois, qui arrive en Patagonie, je crois, début 19e, et il vient là avec sa fille, et en fait le tout début du film, c'est juste que sa fille s'échappe avec, avec un amoureux dans la nature. Ils disparaissent, et donc c'est le père qui part à la recherche de sa fille, en fait. Et le film, c'est l'espèce d'échappée du père, enfin de recherche du père dans une nature à la fois hostile, et donc filmé de manière vraiment splendide. Donc c'est un film qui est, c'est un format...
1,33, 4 tiers.
Exactement, 4 tiers. Donc ce qui fait qu'on en plus ce sont des plans assez longs qui durent, on a affaire en fait à des vignettes très très belles, donc avec des couleurs pas du tout naturelles, enfin beaucoup de travail sur la lumière. En fait c'est un film à la fois très lent, contemplatif, qui peut ennuyer, ce que je comprends complètement, parce que moi-même je l'ai été le premier quart d'heure, et après j'ai été complètement subjuguée, et c'est vrai que c'est un peu une balade un peu folle, et à la fois c'est un film à mon avis un peu référencé, qui parle du western, qui parle des mythes, qui parle du mythe des images, et en fait c'est vraiment un des films les plus envoûtants que j'ai vu quand même de la compétition, enfin un certain regard ou pas d'ailleurs, hein. Ouais. Toute compétition confondue, parce que il y a vraiment un travail sur les formes cinématographiques et sur le récit, et à la fois c'est très très libre comme cinéma, ça s'affranchit de beaucoup de choses qu'on a vues, donc oui, je pense que déjà c'est un très beau film, et je pense aussi qu'il aura appris un certain regard, ça je ne peux parier là-dessus.
Alors Julien, ça a l'air subjuguant.
Dès les deux premières minutes, en fait, je savais que j'allais me faire chier. En fait, je sais pas pourquoi. Je pense que c'est le genre qui me déplaît profondément, quoi. C'est vraiment quelque chose de personnel. La première heure, moi, j'ai trouvé ça extrêmement lent. Alors, pas comme le Kawase, qui a aussi une certaine forme de lenteur et une ambiance assez atmosphérique. Mais là, je suis jamais rentré dedans. Pourtant, je me suis pas endormi. C'est maîtrisé cinématographiquement parlant, mais c'est pas suffisamment accrocheur pour que j'ai vraiment été aussi envoûté que toi, Pauline. Par contre, j'ai trouvé la dernière demi-heure extrêmement intéressante. Il y avait un côté vraiment surréaliste, et tu parlais des mythes, et justement, moi, c'est ce qui m'a vraiment profondément intéressé. Et vraiment, les dix dernières minutes, pour moi, elles sont les meilleures du film. C'est le seul point positif que je vais en retirer, c'est ce dernier quart d'heure vraiment qui va quand même bien vieillir dans mon esprit, mais je le conseille quand même, justement parce que c'est référencé, sur tous les arguments que tu as cités, Pauline, ça mérite le coup d'œil, et ça m'étonnerait pas du tout, oui, qu'il ait un prix, je sais pas combien il y a de prix pour un certain regard, mais à mon avis il a beaucoup plu aux critiques français aussi, à l'étranger je sais pas, mais ça m'étonnerait pas qu'il ait quelque chose. Et Mortensen prend toujours autant de risques dans ses films, en jouant vraiment dans il prend des risques, que ce soit dans La Chasse ou les autres, les précédents dont j'ai oublié, c'est vraiment un acteur je dirais pas ambitieux, mais qui est libre dans ses choix de films.
Oui, là je regarde le tableau des étoiles, c'est vrai que c'est assez... le tableau des étoiles du film français, pardon, où il y a des critiques français qui donnent leur avis, Rora partage beaucoup, ça va de zéro, bon en même temps zéro c'est Eric Neuf du Figaro, donc c'est pas très étonnant, jusqu'à la palme. En même temps, la palme, c'est Serge Kagansky, des Inrecuptibles, donc c'est pas très étonnant non plus finalement. Nous allons donc passer au film de la quinzaine des réalisateurs, où il y avait le film, peut-être pour lequel nous sommes à Cannes, le film d'Isao Takahata, qui était présenté, là on sort tout juste avec Julien de la projection. Julien, rapproche-toi, tu vas nous parler de cet Takahata.
Oui, d'ailleurs on a la fenêtre où les volets ne sont pas fermés, et j'espère entreapercevoir la lune qui va nous rester, j'espère, très longtemps. C'est l'une des images très fortes du film. Alors je suppose que je vais encore me faire le synopsis, je suppose, et celui-là est beaucoup plus simple que le Kawase Steve the Water, d'ailleurs, parce qu'on n'a même pas cité le nom du film en fait de Kawase, je m'en viens d'en apercevoir.
Ou que Adieu au langage, d'ailleurs.
Voilà, ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, en fait, très simplement, en fait, c'est l'histoire d'un couple de campagnards qui vit dans les montagnes et qui vit du coupage de bambou et qui en font vraiment toutes sortes de matériaux, même pour la nourriture. Et le mari, en fait, va découvrir dans la racine d'un bambou un être qui est en fait la princesse Kaguya. Et ce petit être en fait va grandir beaucoup plus rapidement que les enfants normaux entre guillemets, et le couple va décider de la transformer en princesse en la faisant rejoindre la capitale et en la faisant monter dans l'ascension sociale. Et en essayant de respecter au mieux son titre de noblesse de princesse.
Il faut dire qu'il trouve aussi dans le bambou de l'argent, des étoffes, qui vont lui permettre de passer de la montagne à la ville, et donc là, de lui permettre d'avoir cette ascension.
Je préfère les synopsis, mais je suis pas doué là-dedans.
Non, c'était pour éclaircir. Pauline, ça semble clair comme synopsis.
Voilà, c'est ça. Et globalement, personnellement, c'est le meilleur film que j'ai vu à Cannes pour l'instant. Je pense qu'il le restera. Bon, il y a Winter Sleep Emily demain, mais en tout cas, il occupera forcément la place dans le top 3. Pourquoi ? Alors, déjà en surface, le trait des dessins est très simple, mais très fin également. Et c'est vraiment. C'est très accrocheur. On met pas il n'y a pas de temps d'adaptation, en fait. On est tout de suite envoûté par le trait du dessin. Et c'est captivant du début à la fin. La musique est signée Joe Hisashi et vraiment, vraiment magnifique. Je redécouvre toujours les morceaux de piano qui sont moins répétitifs que dans Le Vent se lève de Miyazaki, ou en tout cas sont plus étalés dans le temps. J'adore personnellement le koto et le shamisen, et là ils sont remis au goût du jour, donc vraiment j'adore. Il y a beaucoup de... pas de variation de ton, mais ça me plaît beaucoup. On rit, on pleure, il y a de l'émotion, chose que je retrouvais pas forcément dans le Miyazaki également, qui était vraiment très sérieux.
Le Vent se lève, donc le dernier.
Oui, Le Vent se lève. Il y a vraiment des séquences qui m'ont complètement émerveillé, même fait frissonner entre guillemets. C'est les séquences où il y a vraiment un petit peu d'action, on va dire, beaucoup plus de mouvement. Et là, c'est vraiment on est éberlué, quoi. C'est magnifique, enfin, faut le voir, il n'y a pas d'analyse, faut le voir, c'est captivant. J'aime bien aussi toute la réflexion qu'il y a sur l'ascension sociale aussi également, qui est une critique du cinéaste sur les régimes féodaux en fait au Japon des siècles derniers, où il dresse en fait un portrait un petit peu rebelle de la femme contre la gente masculine. C'était une réflexion extrêmement intéressante. Dans le sens où on voit que grâce à l'ascension sociale, en fait, on diminue les choix, ses choix personnels, et on n'a plus de liberté entre guillemets. Et c'est ce qui est intéressant, c'est que le cinéaste montre quand même une certaine forme de liberté de l'héroïne par rapport à ça, qui dit non. En fait, clairement, elle dit non, elle ne veut pas, elle comprend le choix de son père de l'élever à un rang, donc elle essaie au maximum de lui faire plaisir, mais il y a une certaine limite, et donc il y a un certain retour aux sources. Alors, sachant que, bon, pas des voiles étonnants et aboutissants, mais le film se décompose en quatre parties, il me semble. La première avec la jeunesse, la deuxième avec les débuts dans la ville, puis les troisième et quatrième parties, c'est disons les difficultés, les limites de cette ascension sociale. Ce qui fait que le. Enfin, comme conclusion, ce que j'en tirais, c'est que le réalisateur, c'est un réalisateur qui a 90 ans, qui est, aussi, qui est, presque, enfin, qui est un petit, encore plus vieux que Godard, mais je suis émerveillé. J'ai pas l'impression que c'est. Qu'il y a quelqu'un de, qui a 90 ans derrière la caméra, quoi. J'ai l'impression que c'est voilà, quelqu'un qui m'enchante, qui me bouleverse. Et qui c'est vraiment quelque chose de très poétique, c'est très beau graphiquement. J'étais vraiment enchanté et bouleversé.
Oui, c'est vrai que alors on sent l'aspect aussi testamentaire. Il y a une réflexion aussi sur la mort qui vient en sous-texte, mais on est à l'opposé en fait du style très très sombre, très crépusculaire de Godard où là tout est lumineux malgré cette réflexion qu'il peut y avoir sur la mort. Sans trop dire, non, bah, je suis tout à fait d'accord avec tes arguments. C'est vrai que ne serait-ce que la composition d'Isaichi, c'est peut-être une de ses plus complexes depuis très longtemps, et complète aussi, parce qu'il avait tendance à se reposer un peu, même quand il écrivait pour Miyazaki. Il arrive à faire ces espèces d'envolées, effectivement, sur la nature. Le film est très en rapport avec la nature, parle aussi du portrait d'une jeune fille, donc. Il va sur les terres de Miyazaki et je trouve qu'il arrive à faire tout ce que Miyazaki n'arrivait pas vraiment, enfin, et qui manquait un peu à son dernier film, Le vent se lève, c'est-à-dire bah, le fait que le vent se lève vraiment en fait dans la princesse Kaguya. Et la seule chose que je regrette pour le film, c'est de ne pas être en compétition officielle, hein, parce que ça aurait fait une magnifique palme d'or. Surtout, je pense que ça aurait pu plaire aussi à John Campion, donc on est dans. Parce que le film, alors. Quand tu dis justement que ça, effectivement, c'est un conte traditionnel japonais qui parle de la place de la femme dans la société japonaise, je trouve encore très, finalement, assez actuel sur ce qu'il dit, c'est-à-dire que le fait que le statut social, et bon, le Japon reste assez compartimenté au niveau des castes sociales.
On peut y voir une sorte de métaphore.
Voilà, ça reste assez métaphorique et très actuel sur, bah, sur la place de la femme qui est assignée. À trouver un mari où la famille pousse les jeunes femmes assez jeunes à trouver un mari, et quand elles n'ont pas un mari à partir d'un certain âge, généralement on peut les considérer comme ayant raté leur vie. Donc cet aspect oui, malheureusement c'est très difficile au Japon. Et finalement le film est aussi une espèce d'ode à la liberté des femmes qui peuvent choisir finalement une vie, voilà, choisissez une vie très simple, choisissez le bonheur, ça marche aussi très, très bien. Et ça fait d'autant plus plaisir que Miyazaki a un discours généralement un peu plus traditionnaliste que Takahata dans ses films, où on voit souvent une libération souvent des femmes nées par le travail. Donc on ne va pas rentrer dans un débat sur Miyazaki, mais en tout cas, il y a une liberté. Très grande à la fois de ton et dans le discours du film de Takahata, qui donc aurait fait une palme d'or extrêmement réjouissante, et en plus aurait été le premier film d'animation à avoir la palme d'or, ce qui manque un peu généralement dans les compétitions. Je crois que seul Ghost in the Shell Innocence, de Mamoru Oshii, je ne me rappelle pas s'il était en compétition ou hors compétition.
Non, je crois qu'il était en compétition.
Il était en compétition, ouais. Donc c'était assez étonnant, mais un peu trop space, je pense, de toute façon, pour avoir un prix, et celui-ci est quand même plus consensuel, je pense. Donc il aurait plus, enfin, ça aurait été un prétendant vraiment sérieux pour une palme.
Ce qui est un peu regrettable, par contre, c'est qu'il a été très mal accueilli au Japon, parce que c'était un échec commercial, contrairement au Vent se lève, qui a aussi une connotation antipatriotique, comme pourrait l'être le Takahata, mais qui lui est dans le top 10 du box-office japonais, sans doute par sa notoriété. Et aussi, ça jouait aussi, quand il y a une correspondance à Venise où justement Miyazaki avait annoncé que ce film était le dernier. Donc forcément, ça... Donc
c'est
ça,
bien joué.
C'était un bon buzz, hein. Un bon buzz marketing. Et c'est vraiment, vraiment dommage que le film de Takahata, qui n'a rien réalisé depuis entre 10 ou 15 ans, je crois.
Les voisins de Yamada, c'était 2002.
Ouais, 2002, ouais, ça fait 12-13 ans, quoi. Et c'est vraiment dommage que ce film n'ait pas été apprécié ou plus vu. Alors je sais pas si c'est une question de sujet ou alors c'est une question
de pub entre guillemets. Hein.
C'est le, je pense que le style graphique, autant le style de Miyazaki est immédiatement identifiable. Comme Takahata fait pas lui-même ses dessins, il a pas une patte.
Non, il y a pas sa patte, mais le Japon normalement a l'habitude d'adaptations de styles graphiques différents. On pense à One Piece, à Bleach, c'est transposé au grand écran, ça pose pas de soucis. Et là, je dirais même que je comprends pas, quoi. Je peux pas dire, il n'y a pas les raisons qui expliquent pourquoi, en tout cas, le Japon, marché local, ça n'a pas pris. En tout cas, quelque chose qui est certain, c'est que ça va beaucoup plaire en France, en tout cas. En espérant qu'il soit distribué dans le maximum de salles. Et il fait l'ouverture à Festival d'Annecy, et ça, c'est très bien.
Ok. On t'a convaincu, Pauline ?
Oui, complètement.
T'as envie de la rattraper ? Alors ça fait déjà 45 minutes que nous parlons, on va peut-être aller beaucoup plus vite sur les autres films de la quinzaine, peut-être Mange les morts.
Mange les morts.
on va aller dîner juste après le podcast. Donc Mange tes morts, est-ce que tu peux nous dire très rapidement de quoi il s'agit?
Donc oui,
on l'a vu tous les trois.
C'est une incursion dans le genre du polar en fait par Jean-Charles Hue qui avait réalisé La Bème du Seigneur il y a moins de 5 ans, mais j'ai pas la date. Et donc il travaille toujours avec la même famille de gitans dans le nord de la France, j'oublie leur nom également, et cette fois-ci donc c'est une vraie histoire de Tolar qui sort de prison en fait et qui va se réintégrer dans sa famille, mais pas si bien parce qu'il va essayer de faire un coup, et donc voilà, moi c'est un film que je trouve assez assez vigoureux, assez dynamique et super original en fait, parce que on n'a pas beaucoup, à part un autre film de fiction que j'avais vu qui s'appelait Jimmy Rivière il y a pareil assez récemment, qui était là complètement une fiction sur les gens du voyage. Sinon on n'a pas trop l'habitude, hein, et je trouve ça vachement bien parce que c'est bien, parce qu'on rentre dans l'histoire, dans le polar, on s'inquiète beaucoup pour les personnages, il y a quelques scènes d'action bien tendues, et j'avais trouvé ça assez bien.
Ouais, non, c'est vrai que c'est assez percutant, et l'univers est assez original en fait. Enfin, c'est vrai que c'est pas un univers qu'on a du tout l'habitude de voir dans les fictions françaises. Donc,
je plus sois. Non, mais je suis d'accord, il y a certaines séquences qui m'ont vraiment marqué, qui vont rester. Je vais reciter l'une d'entre elles, hein, quand même, qui est vraiment, vraiment captivée, et une autre plus formelle. La première, c'est quand justement celui qui revient de prison après 15 ans de détention, ils sont en voiture avec ses potes, ils se font courser par les flics et ils s'arrêtent, il sort de la voiture, va en face des flics et explique que ce qu'il fait, c'est qu'il le fait pour sa famille. Et moi, ça m'a bouleversé cette scène-là. C'était vraiment. C'est quelque chose de courageux, et j'ai vraiment éprouvé une très grande empathie pour ce personnage à ce moment-là. Et la deuxième est plus formelle, c'est quand ils sont toujours coursés par les flics, je crois, et en fait il y a un énorme jeu de lumière avec le ciel, ou qui prennent des formes un petit peu fluorescentes. Alors je sais pas, c'est parce que j'ai vu l'Odyssée de l'espace de Kubrick il y a pas longtemps, mais j'ai l'impression qu'il y avait quelque chose qui m'a ébloui là-dedans, en tout cas il y avait une profonde recherche formelle à ce niveau-là. Et ça m'a beaucoup plu. Et c'est vrai que l'histoire, on rentre dedans, c'est peut-être pas un grand, grand, grand film, mais on passe un bon moment, quoi.
Très bien, on va finir sur la quinzaine. En vous conseillant d'aller cliquer sur le lien juste en dessous, on parle d'un des courts-métrages, en fait, donc avec une rencontre avec Davy Chou, qui est donc l'auteur de l'excellent Sommeil d'or il y a maintenant deux ans. Et qui est venu présenter à la quinzaine des réalisateurs Cambodia 2099, donc qu'on a pu rencontrer. Vous avez l'intégralité de l'interview juste sous le lien ci-dessous. Et nous n'allons pas non plus parler du marché du film, puisqu'il y a en bonus Bastian qui nous en parle aussi sur le lien juste en dessous, donc vous pouvez écouter son analyse du marché. Qui était tout pourri cette année. Donc, vous en avez déjà eu quelques échos parce qu'on a vu, mais c'est une confirmation. Enfin, voilà, il y a quand même quelques films intéressants, mais un peu difficiles à trouver, et une situation globale, en tout cas du marché pour le cinéma asiatique à Cannes, qui se dégrade d'année en année. Donc plus d'informations juste en dessous. Peut-être une dernière petite question. Donc Pauline, comme c'était ton premier festival, qu'on arrive en fin de festival, quel est ton, bah, je sais pas, peut-être ton ressenti un peu global sur, sur le festival au niveau de, bah, de l'ambiance, des films. Est-ce que tu as passé un bon festival, tout simplement?
Alors, oui, Victor, j'ai passé un bon festival. Après, en fait, je crois que ça va recouper ce que je disais lors du premier podcast, mais... l'immersion, voilà, est toujours là, c'est-à-dire qu'on n'en est pas encore sorti, et l'immersion dans les films notamment est pas évidente, parce que même quand je fais d'autres festivals, je pense que la qualité ou le nombre de films ajoutés au fil d'attente fait qu'il y a un état de tension et d'immersion dans les films qui est super difficile. Que ce soit pour enchaîner, pour s'en remettre, pour écrire, pour en parler, enfin, tout est dans l'immédiateté. Donc par exemple, je ne saurais pas dire, j'ai des échos comme quoi la sélection officielle était pauvrette cette année. Moi pour l'instant, enfin, et plutôt faible, moi pour l'instant, je ne me rends pas compte de ça, parce que j'ai quand même vu, à mon avis, des grands films. Donc pour ça, c'est encore un peu dur, mais dur, enfin, voilà, quand même très agréable. Et puis. Puis voilà, les sélections parallèles, notamment bah, la quinzaine des réalisateurs, me semble très très dynamique, avec des films très différents et un peu plus, plus relax, notamment une promotion de quelques films de genre voilà, qui font un peu plaisir à voir. Parce que, notamment, il y a un film qui s'appelle Whiplash, on n'en a pas trop parlé, c'est un film américain, mais voilà, c'est des films qui sont pas du cinéma d'auteur difficile à voir, et qui sont quand même en compétition à Cannes, et ça, je trouve ça plutôt appréciable. Après, pour la représentation du cinéma asiatique cette année, c'est vrai que pour ma couverture, ça a été un peu light, parce qu'en effet, il n'y en avait pas beaucoup, et je dois avouer que ce que j'ai vu, voilà, il m'en manque un ou deux, mais que je chroniquerai prochainement... sur Estasia, mais la qualité n'était pas, totalement au rendez-vous.
Pourtant, moi, j'ai l'impression que les sélections, les quatre sélections étaient plutôt de très bonne qualité. Autant la représentation des cinémas asiatiques dans ces sélections était pas terrible. Autant il y a deux ans, même l'année dernière, c'est vrai qu'il y avait l'évidence. C'était l'année dernière qu'il y avait Touch of Sin.
Et Coréda.
Aussi le Coréda, ouais. Qui tel père tel fils, enfin, je considère pas que ce soit un grand film, mais c'était plutôt pas mal cette année. C'est vrai qu'on a l'impression d'une compétition asiatique très très faible, enfin, pour aller repêcher Zhang Yimou hors compétition, voilà. Alors on n'a pas encore tout vu, c'est vrai qu'il nous reste le polar coréen. Qui est hors compétition, dont la projection de minuit a lieu actuellement. On la rate, mais on le récupérera donc demain. Voilà, donc il nous reste encore quelques films à voir, et on n'est pas à l'abri d'une excellente surprise, mais c'est vrai que c'était pas, voilà, c'est pas folichon cette année, quoi, pour l'Asie, mais plutôt très bon pour le reste.
Moi j'ai un je dresse un petit peu le même constat, sachant que c'est pas la même fonction, ce que j'y vais en tant que producteur. On m'avait dit que j'allais beaucoup courir, que j'allais sauter de salle en salle avec beaucoup de rendez-vous. C'est à moitié vrai, dans le sens où c'est vrai que il y a certaines journées où on fait une quinzaine de films parce qu'on n'y reste que 20 minutes et qu'il faut jongler de salle en salle parce que les séances se juxtaposent. On change d'endroit toutes les heures, on va de cinéma en cinéma, alors des fois c'est extrêmement fatigant, et on le ressent surtout le week-end. Et il y a d'autres journées quand même, c'est quand même plus cool. C'est vrai que quand on est marché du film, on a accès à quasiment tout, sauf les sélections où on fait un petit peu de queue, mais on se rattrape en fin de festival. Pour ma première année, alors c'est extrêmement fatigant, moins que ce que je pensais, mais j'imagine pas pour les prochaines éditions. Après, au niveau de la qualité des films, alors vraiment au marché, j'ai vu que du cinéma asiatique, et je dresse le même constat que Bastien, c'est vraiment pas bon du tout. Hein.
Et encore, t'as pas vu son pire film, Sweden Westfield.
Ouais, le vieux film de mer chinois en 3D là. J'ai juste vu un bon Pinku et c'est tout quoi. Tout ce que j'ai vu. Six Killers, quand même, le film indonésien qui vaut le coup.
Mais par contre, je te rejoins, Victor, sur les sélections officielles. Pour l'instant, tout ce que j'ai vu en sélection officielle, c'est que des bons films. Et particulièrement ceux de la quinzaine des réalisateurs, où là, comme tu disais, Pauline, c'est assez varié. J'ai vu vraiment des films de genres différents. Et c'est vraiment une très belle sélection.
On finit, Julien, comme tu as la parole, avec ton film count définitif du festival. Combien de films tu aurais vu en tout? Donc t'en vois encore 3, 4 demain.
Bah, je pense que je vais arriver normalement entre 23 et 25. J'ai pas compté précisément, en tout cas de films pleins. Après, je ne compte pas les films où je suis resté 5 ou 20 minutes, mais ça doit multiplier par 2 à peu près.
Et ton film préféré?
Voilà, mon film préféré, c'est le Takata, naturellement.
Pauline?
Oui, alors je pense. Aujourd'hui, j'ai vu 18 films, et demain, je pense que j'en vois 2 ou 3. Donc voilà, une vingtaine de longs métrages. Avec, on va dire, 4 films de plus de 3 heures, donc si je pouvais avoir des bonus, non, je plaisante. Et mon film préféré, c'est le film turc Winter Sleep. Et également, La Chambre Bleue de Mathieu Amalric. Mmh. Voilà.
Moi, j'aurais vu 24 films. En trichant, parce que je suis allé voir des courts-métrages aujourd'hui, histoire de vous rattraper par rapport au film. Et mon film préféré, ça reste Princesse Kaguya, donc le Takahata, je pense, que j'ai déjà envie de revoir. Et le Godard aussi, j'ai envie de le revoir même. Donc on va dire que ça reste le Takahata. Merci Julien.
Merci à toi, Victor.
Merci Pauline.
Merci
d'avoir suivi ce festival avec nous. Donc pour les films dont on n'a pas encore parlé et le commentaire du palmarès, vous pouvez avoir accès dès mardi donc à ton bilan. Comme ça tu feras un petit point aussi sur le palmarès en même temps.
Exactement.
On se donne rendez-vous dans quelques temps. Je ne sais pas encore, là vous avez 4 heures de podcast à écouter, donc un peu plus tard pour un prochain podcast. See you, Space Horizon.
Au revoir.
Salut.